Bonjour à tous. Alors on va commencer par le traditionnel test de son. Moi je m'entends en retour, donc j'imagine que vous m'entendez tous. Très bien. Alors, donc cette deuxième intervention du cycle s'intitule un individu en quête de sens, la crise de l'homme normal. Alors, donc, bon, la crise de l'homme normal, c'est vrai que ça n'aura rien à voir avec les actualités, même s'il y a un clin d'œil assez marrant. Mon téléphone sonne, super. Ça tombe bien. C'est ma collègue Claire Durosard qui doit pas penser que je peux être en train d'intervenir à cette heure-là. Bon, alors, cette intervention va s'articuler de cette façon-là. Dans un premier temps, je vais faire une première partie sur le besoin de sens, c'est-à-dire la question de la nécessité psychique de ce besoin de sens, c'est-à-dire ça va pas être une approche philosophique, ça va être une approche donc psychologique bien sûr. Je ferai une deuxième partie sur la question de la crise, donc la crise, on va revenir un petit peu sur la définition qu'on peut donner à ce terme-là qui est quand même très très à la mode. Et puis on fera une dernière partie sur la question des crises. Façon plus spécifique sur les crises que traversent les sujets, donc les crises de l'homme normal, on va reprendre le titre, c'est-à-dire tous ces épisodes que les individus traversent au cours de leur vie, qui peuvent être des crises, j'allais dire, normales ou plus accidentelles éventuellement, et puis on va essayer de faire le lien entre la question de la crise de l'individu et comment ça peut interagir avec la crise des autres individus et puis avec la crise, les crises, parce que je pense qu'il faut plutôt employer un pluriel, c'est-à-dire les crises de l'environnement, l'environnement social, économique, etc., etc. On va commencer sur le besoin de sens. Donc l'être humain, c'est un être donc de sens. Depuis toujours, il cherche à interpréter tous les phénomènes qui l'environnent en associant des éléments du réel ensemble. C'est ainsi que sont apparus, bien sûr, donc les cultes, rites, mythes, religions, savoirs, sciences, finalement tout ce que sont les savoirs construits sont, émergent de ce besoin que l'être humain a de créer du sens. Il a donc besoin de comprendre, d'expliquer, pour maîtriser les situations qu'il rencontre, afin de les anticiper, de les provoquer, de les éviter. Donc c'est d'abord un mécanisme qui est assez primitif. Hein. Les premières associations, on les trouve chez l'animal. Hein. On connaît l'expérience des réflexes de Pavlov, qui sont ces expériences où on a fait par conditionnement un animal, on lui fait faire, on lui fait associer deux choses qui ne sont a priori pas faites pour être associées au départ. Donc ça peut être le besoin de manger avec le bruit d'une cloche, etc. Et on se rend compte que si on tape la cloche, ça suffit au bout d'un certain temps de conditionnement à faire saliver l'animal parce qu'il a associé cette idée avec l'idée qu'il allait avoir à manger. Donc ce besoin de comprendre en effet, d'associer dans un premier temps les éléments entre eux, on le retrouve finalement chez les animaux. J'ai même lu tout à l'heure que ce réflexe pavlovien, il y a quelques années de ça, les Japonais l'ont mis en évidence chez la blatte. Voilà, pour vous dire que c'est quelque chose qui peut être vraiment primitif et archaïque quand même. Mais bon, chez l'être humain, évidemment, il y a des degrés de complexité qui sont différents. Ce besoin de comprendre, c'est une nécessité psychique parce qu'il permet à la psyché de garder une unité, une cohérence. Voilà, parce que la psyché va donner du sens en associant et en organisant les éléments psychiques qui soient endogènes ou exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'intérieur ou qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire la perception. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu le contraire de l'entropie, quoi. Vous connaissez peut-être ce concept qui dit que l'univers évolue toujours vers plus de chaos, toujours plus de complexité. Ben, je voudrais dire que la psyché, elle fonctionne un peu à l'inverse, en cherchant à classer et à organiser. Donc elle va chercher à mettre de l'organisation, à associer les éléments entre eux, à mettre de la causalité, à créer des catégories, donc de mettre de la catégorisation, et puis à simplifier. Donc de tous ces éléments, naissent finalement des savoirs construits. Dire, ce que je suis en train de vous proposer en est une émanation, mais n'importe quel savoir ou supposé savoir, en tout cas construction idéologique, émane de cette idée-là, hein, y compris des choses comme le racisme, par exemple, qui fait qu'on va se mettre à associer des idées à partir d'expériences qu'on a faites, etc. Et donc pour dire que ce besoin de comprendre, etc., ce besoin d'associer les éléments entre eux, c'est pas vraiment bien en soi, ça donne pas forcément que des bonnes choses en soi. Alors, ce qui caractérise quand même l'être humain, pour le différencier des animaux, de la blatte par exemple, ça va être que, à l'inverse de beaucoup d'animaux qui sont quand même programmés par leur instinct, donc un certain nombre d'éléments qui existent de façon, inscrite dans les gènes de l'animal, les humains, eux, naissent psychiquement prématurés, c'est-à-dire dans une dépendance complète vis-à-vis des adultes. Cette dépendance, elle va bien au-delà de la fonction nourricière ou de tous les maternages qu'on peut imaginer. Parce que ça, c'est pas forcément propre à notre espèce d'ailleurs, hein. On voit que les autres mammifères également sont dans ce rapport-là au tout début de la vie. Mais il y a également une dépendance pour le développement des fonctions psychiques, cognitives et relationnelles en général. Parce que si on reprend l'exemple du nourrissage, on peut pas se contenter de nourrir un enfant, d'un bébé, en se contentant de le nourrir. C'est-à-dire, on va le remplir comme un tube, etc. Ça ne marche pas parce que pour que l'enfant puisse bénéficier de ces soins, c'est que ça s'accompagne quand même d'un certain nombre d'affects, une certaine communication. Alors quand on dit communication, c'est pas forcément la communication verbale. À la limite, ça passe même pas tellement par le verbal à cet âge-là de la vie. Quand on parle aux enfants, à la limite, ils seront plus sensibles aux tonalités de la voix, la prosodie, qu'au sens des mots, parce qu'ils n'y ont pas encore accès. Ça s'accompagne, je parlais de la communication, peut être aussi par le toucher, etc. Bon. Et on peut noter que les rares occasions où on a pu observer des individus qui avaient été extrêmement maltraités, c'est-à-dire dans un nourrissage qui est seulement un nourrissage qui consiste à vouloir remplir l'estomac sans la moindre communication qui l'accompagne. La plupart du temps, on voit quand même des individus qui développent des pathologies extrêmement graves, extrêmement régressées. Ça peut être des psychoses infantiles très régressées, des formes d'autisme très, très archaïques, gravissimes, parce qu'il y aura une incapacité à entrer dans le langage, parce que c'est pour pouvoir développer ces capacités-là, il faut que les objets, de manière, quand on parle d'objets, on va parler des parents, donc qui sont, ou en tout cas des adultes qui vont s'occuper de ces enfants, il faut que ces personnes-là viennent stimuler le bébé. Sinon, ces capacités-là finissent par s'atrophier, par se perdre. Là, je fais une petite incision quand même pour préciser que, donc là, ça touche à ce que je disais tout à l'heure sur la question de vouloir mettre de la causalité. Alors, quand on dit que certaines formes d'autisme peuvent être provoquées par un déficit de soins, voilà, faut pas retourner la proposition en pensant que toute forme d'autisme émanerait de quelque chose qui s'apparenterait à de la maltraitance, quoi. Enfin, je pense qu'il faut quand même être très clair par rapport à ce genre de choses. Donc, ces capacités psychiques du bébé vont se développer en appui, en étayage sur l'autre. Donc, les parents, la mère ou autre, vont mettre leur capacité d'intégration psychique, leur capacité d'interprétation au service du sujet lors de ces moments-là. C'est-à-dire que, bon, il y a des moments qui sont très paradigmatiques, ça va être le moment du bébé qui pleure, alors voilà, on va essayer de comprendre et d'interpréter est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim, est-ce qu'il la pleure parce qu'il a besoin d'être changé, etc., etc. Donc, et c'est en mettant des mots et un sens sur ces situations-là que le bébé va petit à petit apprendre. Ça va nécessiter une longue répétition de cet apprentissage-là, mais c'est petit à petit qu'il va apprendre à faire la distinction au sein de ses expériences, parce que bon, au départ, l'expérience, c'est quelque chose d'assez quand même assez chaotique, c'est une succession de perceptions internes, externes, qui sont quand même extrêmement compliquées pour une psyché immature à analyser, à comprendre, et donc c'est pour ça que l'enfant tout petit a besoin de l'adulte. Donc il y a un concept comme ça théorique qui s'appelle la fonction alpha. Bon, si y en a qu'on a déjà assisté aux conférences qu'on a données les années précédentes, c'est des choses dont on a déjà parlé, mais donc le principe de la fonction alpha qu'a théorisé Wilfried Bion, qui est un psychanalyste anglais, c'est l'idée que ça sert finalement à décrire ce que je viens de vous expliquer. Le sujet, donc le bébé, reçoit des éléments bêta, ce qui sont des éléments bruts, des éléments non intégrables psychiquement pour l'enfant. Et la fonction alpha, c'est donc l'objet, donc le parent, qui va la tenir. Et donc, pour transformer ces éléments bêta en éléments alpha qui, eux, seront intégrables psychiquement. Voilà. Donc, ça permet d'illustrer cette idée-là. Donc, le sujet finit par répétition. Vous m'entendez déjà plus. Mince. Donc, Faut me le dire, hein, parce que moi j'ai tendance à baisser le volume petit à petit. Hein, c'est un défaut. Donc je disais que c'est la répétition de ces expériences, un petit peu de conditionnement, d'explication, d'interprétation, qui permettent au sujet de développer petit à petit son autonomie. Parce que petit à petit, il arrive à faire sienne cette fonction alpha, et par conséquent, à se l'approprier et à pouvoir se passer du sujet pour interpréter les expériences qu'il rencontre. On peut noter que cette question de passer par l'autre pour pouvoir intégrer psychiquement, c'est quelque chose quand même qui va se poursuivre tout au long de la vie, hein, parce que il y a, la simple illustration du fait que la personne qui a des problèmes, etc., va généralement essayer d'en parler, tout bêtement, aller voir quelqu'un, lui en parler, lui exposer la situation, voir comment il y réagit, ne serait-ce que voir si l'autre est affolé par ce qu'on lui raconte, ou est-ce qu'il accueille ça avec une certaine retenue et qu'il arrive à finalement à circonscrire un peu ses difficultés pour se rendre compte que bah, cette expérience qui est vécue de façon traumatique, de façon compliquée, elle peut être sans doute psychiquement intégrable. On retrouve ça aussi par exemple dans les situations d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on se rend compte que de la même façon qu'il faut accompagner les fonctions de nourrissage chez le bébé d'une parole, d'une relation, etc., la relation du maître à l'élève est quelque chose d'indispensable, quelque chose d'important, parce que sinon on se retrouve à vouloir faire de l'apprentissage en autodidacte, et je pense que tous ceux qui ont essayé on se sont quand même rendu compte que c'était plus facile d'être dans un apprentissage par la transmission et donc par le partage avec quelqu'un, avec un autre, avec une plutôt que par de l'information brute, non accompagnée d'un discours, d'un certain nombre d'affects, etc. Alors l'individu, de ce fait, il va développer une attention quand même particulière à la façon dont l'autre, les autres, gère les situations qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'on peut voir dans cette façon dont la psyché se développe, en étayage sur celle d'autrui, c'est un peu une des origines de la pensée normative. Ce qui fait que si on a besoin de l'autre pour pouvoir comprendre ce qui se passe et que finalement chacun fait un petit peu de même, on finit par socialement finalement développer des espèces de stratégies ou des voies de compréhension qui font que on se dit bon ben voilà, pour face à telle situation, la meilleure manière de se comporter, de réagir, de comprendre la situation, ça va plutôt être ça. Et on peut noter que voilà, que les individus développent, se transmettent un certain nombre de principes par influence, par mimétisme, etc., qui finissent par former une norme sociale. Et on note que les individus en crise vont tout particulièrement s'attacher à ces modèles et ces normes. Alors on peut prendre l'exemple des adolescents. Des adolescents qui sont dans une période un peu compliquée, la poussée pubertaire, la question de comment on grandit, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Ça amène beaucoup de remaniements, la question du développement. Ça amène quand même à développer quand même toute une sous-culture importante. Et on peut noter aussi, pour les sujets qui sont confrontés à des deuils, par exemple, là il va y avoir dans un autre genre, ça peut être d'aller se réfugier, en tout cas d'aller trouver un soutien dans des références religieuses, par exemple. Quelqu'un qui est un peu en difficulté, il va avoir besoin de s'appuyer un peu sur un groupe et sur une pensée et sur un cadre groupal pour pouvoir se sentir mieux. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on a besoin dans certaines situations de crise, de s'appuyer sur des réponses un petit peu toutes faites parfois. Voilà. Alors là, ça me permet peut-être de dire quelques mots sur un concept psy qu'on appelle l'identification projective, qui vient de Melanie Klein, une psychanalyste allemande qui est ensuite aller faire sa carrière en Grande-Bretagne parce qu'elle a fui les nazis. Cette identification projective, c'est un mécanisme qui pour coup est inconscient, c'est-à-dire que là j'ai parlé d'un certain nombre de situations où consciemment on va aller chercher un appui auprès d'un autre parce qu'on se rend compte que ça va faciliter l'intégration. L'identification projective, c'est un mécanisme de défense qui va consister à aller inconsciemment faire vivre à l'autre une expérience psychique qui nous est propre pour voir comment il s'en dépatouille, tout bêtement. On peut dire ça comme ça. Donc projectif, c'est-à-dire qu'on va projeter Peut-être que au niveau de la traduction, là, voilà, ça a été traduit en français par identification projective, par une projection identificatoire serait mieux finalement pour décrire le phénomène. Parce qu'on commence par projeter sur l'autre et puis ensuite on voit comment il gère la situation. Sachant que cette identification projective, elle a été également ensuite développée de façon à mettre en exergue que c'est une capacité qui peut un petit peu dégénérer. Et du coup, il y a certains individus qui vont faire vivre aux autres leur propre problématique psychique, mais qui vont surtout pas chercher à se la réapproprier derrière. Donc, on attend la projection simple, sauf qu'on n'est pas dans une projection qui va être une désignation en disant c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça, parce que ça va être faire vivre, mettre les gens en situation d'éprouver des choses. C'est quand même pas la même chose que de leur attribuer soi-même des... parce que finalement, les gens se retrouvent en situation de vivre des situations folles, ne pas comprendre d'où elles viennent, d'où elles proviennent, à se demander s'ils y sont pour quelque chose, etc. Et c'est vrai que l'identification projective, c'est un mécanisme typiquement qu'on retrouve dans les phénomènes de perversion, par exemple. Alors je vais revenir un petit peu sur la question du cadre normatif stable. Donc la société a en principe pour but de fournir un cadre normatif stable ayant pour but de soutenir l'individu dans les épreuves qu'il traverse au cours de sa vie. Et dans les situations de crise plus particulières, elle peut déléguer à quelques figures sociales finalement le soin d'aider de façon plus importante, de façon plus soutenue les sujets pour qui la norme sociale ne suffirait plus ou pire les mettrait en difficulté. Donc voilà, jadis le sorcier, hier peut-être le prêtre, aujourd'hui on va parler des psys. Alors bon, c'était le sujet de notre intervention de la fois dernière, donc je vous y renvoie. Donc la question, finalement après aussi l'action des psys, c'est comment est-ce qu'ils gèrent ces symptômes de crise, quoi. Est-ce que le but ça va être de les effacer, ou est-ce que ça va être de les comprendre pour voir comment est-ce qu'on peut comment le sujet peut s'adapter à la situation, peut en tenir compte et pas seulement tirer un trait de plume dessus en essayant de se rééduquer. Voilà. On revient un peu aux idées que j'évoquais tout à l'heure pour la pensée pavlovienne par le conditionnement. Donc j'arrive sur ce que je voulais dire sur la crise, donc un terme très, très, très d'actualité. Alors l'étymologie nous ramène au grec « crisis », qui veut dire jugement, choix, décision, et puis pour remonter encore plus loin dans le temps, on va remonter à la racine indo-européenne, crei, qui signifie l'action ou la capacité à distinguer. Voilà, de façon, le jugement, de cette manière. Le latin médiéval crisis, c'était donc un terme médical qui désignait une manifestation grave d'une maladie, qui peut être un champ, le moment d'un changement en bien ou en mal, c'est-à-dire c'est un peu l'heure de vérité, c'est-à-dire est-ce que le sujet va se remettre de sa maladie, ou au contraire est-ce qu'elle aura raison de lui, quoi, finalement. Aujourd'hui, finalement, on a de cette question du moment du choix, finalement, de la pièce qui est en équilibre un peu d'un côté, on ne sait pas sur quelle face ça va retomber. On a quand même gardé que la dimension négative du terme de crise, parce que c'est la situation de difficulté, c'est une, c'est perçu comme une rupture d'équilibre, une dégradation avec donc une avec l'idée que c'est quelque chose qui est presque nécessairement quelque chose qui va aboutir à une dégradation, à une situation qui va être pire qu'elle n'était. Mais ce qui ressort quand même, c'est que cette rupture d'équilibre suppose que c'est une situation évolutive transitoire, une situation passagère, et censée mener quelque part, voilà, vers un sort qui peut être funeste, qui peut être heureux, mais elle n'a pas vocation, cette crise, à être chronique, à être permanente, à être un état, finalement, qui ne change pas. Alors c'est là qu'on rencontre peut-être la relativité des échelles temporelles, parce que des transitions lentes peuvent paraître chroniques pour ceux qui les prennent pour des situations installées finalement, alors que ce sont des changements qui prennent du temps. Bon, on peut donner des exemples qui sont que des voilà, qui sont à valeur d'illustration, comme à l'échelle géologique, par exemple, les changements sont, pour nous, les changements géologiques sont nuls, on ne les remarque pas. Enfin, on peut dire que les Alpes sont à peu près les mêmes géologiquement parlant que ce qui pouvait être à l'époque d'Hannibal. Enfin, il n'y a pas eu de. Les changements sont tellement lents que c'est imperceptible. Mais il y a sans doute des analogies à faire sur les changements qui concernent les changements de société, les changements de civilisation. Il y a des processus qui sont lents et l'absence lisible de perspective provoque logiquement une perception frappée d'angoisse pour les individus, parce que les individus voient un certain nombre de repères qui existaient s'effacer, se perdre, mais sans saisir vers quoi on se dirige et comment la société va pouvoir se réorganiser à partir de là. Donc on se rend compte qu'on est dans une période où il y a quand même un certain nombre de choses, de crises et donc de changements qui sont à l'œuvre, pour aller où personne n'en sait rien finalement. Mais donc on peut noter, donc là c'est plus un discours sociologique, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais bon, il y a des crises qui touchent les questions religieuses, les questions idéologiques, les questions économiques, les questions d'organisation de la société, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial. La question des crises également écologiques, etc. Tout un certain nombre d'éléments qui accompagnent finalement notre environnement social les discours qui nous environnent tout au long de la vie, qui sont nécessairement qui donne un sentiment de précarité à l'individu, parce que rien ne semble suffisamment fiable, rien ne semble suffisamment solide pour être durable, et donc il y a une espèce d'angoisse du lendemain qui s'est un petit peu installée depuis un certain nombre d'années maintenant. Et c'est vrai que là, je ferais plus référence à ce que je disais l'an dernier, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient déjà là, les sorts de l'individu. Donc le triomphe de l'individualisme qui est un peu propre de notre société contemporaine, elle a même soumis finalement les individus à la tâche de devoir se créer leur propre référence en fonction de leurs desiderata, etc. On se rend compte que peut-être le poids de la famille d'origine tendance à décliner au profit de une famille qui est choisie, remodelée un peu à loisir sous le modèle des liens amicaux. La société n'assigne plus de place aux individus de façon aussi définie que par le passé, parce que c'est aux individus d'inventer leur propre place, la façon dont ils veulent évoluer au sein de cette société. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même un certain nombre de phénomènes sociaux à l'œuvre pour. Il y a le discours qui veut que le self-made man, soit l'individu qui a réussi par excellence, c'est-à-dire qui est très valorisé socialement. Donc ça fait appel d'ailleurs à un fantasme qui est assez archaïque, qu'on appelle le fantasme d'auto-engendrement, c'est-à-dire le fantasme que l'individu naît de lui-même, qu'il ne procède pas, qu'il ne provient pas d'autres qui étaient là avant lui. Donc là, le self-made man, c'est un petit peu ça, c'est l'individu qui a su se construire seul en dehors de tout héritage culturel ou financier ou quoi que ce soit. Enfin, c'est celui qui arrive à se construire tout seul. Et donc il y a le besoin de sens qui caractérise le sujet peut être mis à mal par cette valorisation peut-être excessive de l'indépendance et par peut-être une certaine forme de relativisme ambiant. On se souvient de quelques années cette émission qui s'appelait C'est mon choix, où toutes sortes d'individus venaient témoigner de tout et n'importe quoi pour dire j'aime ceci, c'est mon choix, machin, mais une manière avec un discours comme quoi un petit peu tout se vaut d'une certaine manière. Il n'y a plus tellement de discours qui vient mettre baliser un certain nombre de choses, donner des repères un peu plus construits. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que le sujet va demander ainsi la société va demander au sujet qui la peuple d'être malléable, d'être flexible, comme des chewing-gums en fait, un petit peu. De pouvoir se modifier à loisir, s'adapter à ce qu'on lui demande, de se reconstruire un petit peu comme un peu en permanence, s'adapter à ses désirs. Voilà. Des désirs qui vont être quand même largement stimulés, entretenus et orientés par la société à travers différentes choses. Et le reproche principal qu'on peut faire souvent aux individus, ça va être peut-être de manquer de souplesse, de résister, de ne pas être toujours être en mesure de s'adapter, de ne pas être toujours en mesure de désirer, d'être toujours dans les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la société. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais c'est vrai qu'une des formes, ça peut être l'individu qui va se déprimer, qui va plus pouvoir se soumettre aux pressions qui peuvent lui être faites, et qui du coup va finir par s'effondrer un petit peu sur lui-même et va avoir besoin de temps pour se reconstruire un petit peu. Alors, un sujet traverse un certain nombre de situations de crise au cours de son existence. Alors, il y a les crises exceptionnelles, les traumatismes imprévus, les accidents, comme pour les maladies, blessures, séparations, perte d'emploi, etc., etc. Mais il y a aussi, tout un certain nombre de crises qui sont peut-être plus normales, entre guillemets, mais qui sont quand même des moments de fragilité du développement de l'individu. Alors, ces moments de crise psychique, ils peuvent être la conséquence d'un changement physique ou biologique, par exemple. C'est-à-dire, ça va être le cas de la naissance. Il y a une première crise à la naissance où le sujet qui est encore tout petit, tout prématuré, il va passer d'un milieu aqueux, d'un milieu liquide à un milieu aérien. Il va découvrir un certain nombre de nouvelles stimulations sensorielles auxquelles il n'était absolument pas habitué. Donc là, c'est tout un moment de crise ce à quoi je faisais un petit peu référence tout à l'heure. Et un certain nombre d'expériences de faim, de froid, de choses comme ça qu'il ne connaissait pas quand il était in utero. Donc c'est une situation, on peut évoquer, je vais évoquer les adolescents, donc la question de la puberté, là encore c'est un moment un peu de crise pour les individus, ils voient leur corps se transformer, ils grandissent, ils changent, il y a des nouvelles fonctions qui se développent. C'est un moment qui est pas forcément évident pour les adolescents, et on se rend compte que à l'usage que c'est compliqué pour certains de faire face à cette situation-là. On peut illustrer ça avec des pathologies comme l'anorexie, comme la boulimie, comme On peut évoquer voilà, des situations de grossesse. Alors Claire Durosard fera l'intervention de lundi prochain sur ce sujet-là, donc on lui laissera développer ça dans une semaine. Donc la question de la ménopause, la question du déclin général des fonctions biologiques dues au vieillissement. Et puis, bon, il y a toutes ces crises, elles sont forcément accompagnées d'une dimension psychique, évidemment, c'est là où le sujet va avoir besoin de se rassurer, confronter son expérience un petit peu avec celle des autres, pour voir si ça se passe à peu près comme c'est censé se passer. Alors, il y a les crises qu'on va dire naturelles, biologiques, comme j'évoquais. Il y a un certain nombre de crises qui sont des crises du développement psychique. Alors au niveau de la petite enfance, on peut noter qu'il y a la confrontation avec la question de l'altérité. Dans un premier temps, j'évoquais que la psyché infantile est quand même confrontée à une sorte de question chaotique. Et donc il développe petit à petit l'idée qu'il y a une différence entre lui et l'autre. C'est-à-dire que parce qu'au départ, dans la situation de nourrissage, il peut y avoir des situations d'hallucination où pour s'auto-calmer, un bébé va avoir tendance à halluciner un sein ou un biberon et puis on va aller voir téter un petit peu dans le vide pour avoir ce mouvement, pour se calmer en attendant d'être satisfait dans la réalité. Mais dans un premier temps, finalement, il n'y a pas de différence vraiment établie entre l'expérience hallucinée puis l'expérience réelle. Donc, et petit à petit, le sujet finit par réaliser qu'il y a des expériences qui ne dépendent pas que de son bon vouloir et qu'il existe des autres qui sont là pour satisfaire son expérience ou pour le frustrer quand il n'arrive pas assez vite, etc. Et donc cette conscience de l'altérité se développe au fur et à mesure en fonction d'un certain nombre d'expériences qu'il faut répéter un certain nombre de fois avant qu'elle soit intégrée. Alors il y a également la différence ensuite des sexes, la différence des générations. Alors, l'enfant l'a fait expérience au niveau dans l'enfance, mais tous ces espaces sont ensuite réactualisés au cours de la vie quand le sujet a grandi et puis fait l'expérience de la parentalité, etc. Il y a un certain nombre d'éléments infantiles qui ressurgissent un peu dans ces moments-là. Et puis, il y a quand même aussi un certain nombre de crises qui sont d'ordre social, qui sont autant d'étapes que le sujet qui vit en société affronte, plus ou moins facilement. Parfois, ça se passe tranquillement, parfois, c'est plus compliqué. Alors là, on peut citer dans l'enfance l'entrée à l'école, les changements d'établissement, qu'on passe du primaire au secondaire. Les questions des examens, le permis de conduire, et puis ensuite il y a l'entrée dans le monde du travail, la question de la retraite, quand on arrive au moment où l'été, etc. Il y a un certain nombre de situations comme ça, on se rend compte que arriver à l'âge de la retraite, c'est pas toujours évident. Il y a des sujets qui le vivent bien, qui ont bien anticipé, bien travaillé ça, puis il y en a d'autres qui se retrouvent désœuvrés un peu du jour au lendemain et ça les fait déprimer. En tout cas, toutes ces crises, elles doivent être traitées psychiquement, parce que finalement, toutes les expériences sont à traiter psychiquement. Et on se rend compte finalement qu'un individu, si on cumule toutes ces expériences, il enchaîne finalement ces temps de crise, un peu tout au long de sa vie, parce que très régulièrement, alors c'est vrai qu'au cours des jeunes années, ça se rapproche, alors peut-être une fois qu'on est à l'âge adulte, ça s'espace un petit peu, mais si on a des enfants, on les revit par procuration, parce qu'il y a la question qui va se poser, c'est que non content de devoir gérer ses propres difficultés, ses propres crises, les interactions sociales, et donc l'intersubjectivité, ça oblige le sujet à devoir également affronter puis gérer les crises qu'affrontent les autres. Parce qu'il y a le soutien réel quand on est confronté directement aux situations, à être au chevet d'un malade, etc., par exemple. Mais puis il y a toutes les dimensions d'identification, les dimensions d'empathie quand on est aux prises avec quelqu'un qui nous fait part d'une détresse psychique. On est quand même touché par cette détresse-là, soit parce qu'on l'a soit même déjà affronté, mais pas forcément d'ailleurs. Enfin, tout, parce qu'on se représente, on a quand même une certaine idée de ce que ça peut être que de traverser telle ou telle épreuve, même s'il y a des expériences qui sont peut-être au-delà de toute représentation pour un sujet qui les a pas vécues. Oh. Donc pour illustrer finalement cette situation de mini-crise comme ça, mais qui sont celles de tous les jours finalement, sans avoir besoin d'aller chercher des situations extrêmement compliquées, des situations extrêmement hors du commun. Si on imagine une famille lambda, sans histoire particulière, on peut imaginons par exemple un père quadragénaire qui est au moment du milieu de la vie, comme on dit, au moment où on commence à sentir qu'il vieillit un petit peu, il voit ses enfants grandir, etc. Sa femme va peut-être approcher la ménopause petit à petit, sa sœur, elle est peut-être en plein divorce. Vu le nombre de divorces qu'il y a, c'est quand même pas quelque chose d'inimaginable. Mettons que son propre père a ce père de famille, il vient d'arriver à la retraite, il le vit plus ou moins bien. Sa mère peut avoir quelques petits soucis de santé, rien de très, très grave, mais enfin voilà, à côté de ça, il va avoir des enfants. Il y a un qui fait ses études, qui avec l'angoisse du chômage et compagnie, une fille qui est en pleine crise d'adolescence, et à côté de ça, il y a tout ce que, je veux dire, tout ce que charrie les relations avec les amis, avec les familles plus éloignées. Alors bon, les petites situations de crise pour les familles éloignées, ça nous concerne pas, c'est-à-dire si on apprend qu'ils ont perdu leur chat, ça va. On n'est pas bouleversé, mais si on apprend que tel cousin issu de Germain qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais qu'il est mort dans un accident de voiture, bon, ça nous touche quand même si on l'avait pas vu depuis longtemps. Il y a les collègues de boulot, il y a les voisins, etc., etc. Et donc, pour faire face à cet ensemble de petites situations que finalement chacun rencontre plus ou moins, alors tout n'arrive pas forcément en même temps. Mais il y a quand même besoin d'un environnement qui soit suffisamment sécurisant, on va dire ça comme ça. Parce que si à toutes ces petites difficultés ordinaires s'ajoutent un certain nombre de situations de crise plus préoccupantes, alors que ça peut être l'environnement réel, que ce soit une source de pollution pas loin de chez soi, des nuisances sonores, des choses comme ça qui viennent nous pourrir un peu la vie au quotidien, un environnement relationnel. Alors si on a le malheur d'habiter un quartier compliqué où il y a des problèmes de violence, de trafic, de je ne sais quoi, il faut le supporter au quotidien avec tous les affects difficiles que ça suppose. Les environnements professionnels, alors bon, si on est au chômage, c'est compliqué, si on se sent menacé par un plan de licenciement, n'importe quoi, ça va être des difficultés supplémentaires. Et puis, il y a, je pense aussi, quelque chose qu'on peut noter qui est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des sociétés comme ça qui sont dans des situations de raidissement parce que on sent que ça se réorganise, mais on voit pas encore bien comment ça se réorganise et où est-ce qu'on va. Ça peut être un environnement symbolique, tout bêtement, c'est-à-dire des choses où le discours qui accompagne la vie quotidienne, que ce soit dans des échanges réels avec avec les gens qu'on côtoie au quotidien, mais également les discours qu'on entend dès qu'on allume la radio ou la télé ou quoi que ce soit. Bah, je crois que un environnement sécurisant, c'est aussi un environnement qui donne un petit peu de, un caractère positif à ce qui peut se passer. Alors, je pense que ça rejoint un certain nombre de crises que j'évoquais, qui va être la question de ça pourrait être mieux demain que ça n'est aujourd'hui. Et c'est ça que la situation de crise amène plutôt l'angoisse que ben, tout fout le camp et les choses vont de mal en pis. Alors, il y a un concept, par exemple, qui vient de la psychologie des groupes, la psychologie clinique des groupes, qu'on appelle l'attente messianique. C'est quelque chose qui caractérise les groupes qui sont un peu en attente des petits groupes, ou des groupes plus importants d'ailleurs, qui sont en attente de quelque chose qui vienne révolutionner, mais au moins ces groupes sont polarisés par ça, et puis ils mettent en œuvre les choses pour que cette attente puisse éventuellement être facilitée. Mais on peut retrouver ça dans les concepts chrétiens d'espérance, ou les lendemains qui chantent du communisme, etc. Je pense que la question de la crise du religieux et des idéologies, en général, et l'éclatial que provoque la question de l'émergence de l'individualisme, qui fait que les individus sont quand même de plus en plus isolés, avec des liens qui sont précaires, qui tiennent peu ou pas longtemps, parce que les sujets sont quand même soumis de se soumettre un petit peu à leurs désirs, à leurs impulsions, parce qu'on va sans arrêt les chercher, les convoquer à cet endroit-là. Du coup, on peut dire que l'environnement de crise sociale vient doubler les crises individuelles. Là où, un environnement social peut-être plus stable, qui va avoir de toute façon ses défauts aussi, parce qu'il n'y a aucune société qui est dépourvue de ça, et puis les normes sociales, quand elles sont trop fortes, trop pressantes, elles provoquent également de la pathologie. J'évoquais ça la semaine dernière quand on parlait des pathologies de l'interdit qui était la névrose, par exemple, du temps de Freud, où on voyait des névroses obsessionnelles de ceux qui développaient comme ça des symptômes particuliers parce qu'ils ne s'autorisaient pas à vivre tel ou tel désir. C'est des choses qui, dans notre société actuelle, se sont largement raréfiées, mais qui ont laissé place, comme je disais, à de nouvelles formes de pathologies, qui sont des pathologies plus narcissiques, plus basées sur le besoin qu'a l'individu d'assouvir des désirs un petit peu en permanence et de s'assurer d'être bien comme il est, bien comme il faut, dans une espèce d'angoisse permanente. Voilà. Donc je vais arriver là au terme de ma présentation, puis on va pouvoir passer au temps de l'échange avec vous. Voilà. Merci.